France Musique. Musicopolis. Rachmaninov, 1917, Moscou. Dans l'atmosphère de liesse qui suit la révolution de février et l'abdication du tsar, alors que le mot de liberté est sur toutes les lèvres, Rachmaninov poursuit sa carrière de pianiste virtuose. Au début du mois de mars, il joue pour la première fois le premier concerto de Liszt sous la direction de Serge Koussevitzky. Et quelques jours plus tard, au cours d'un concert de charité, il joue trois concertos dans la soirée. Son propre concerto numéro 2, le concerto de Tchaïkovski et le premier de Liszt. Le 25 mars 1917, Serge Rachmaninov a joué trois concertos en une soirée au Théâtre Bolchoï, sous la direction du chef Émile Cooper. L'intégralité de la recette va au bénéfice de l'armée. Sans le savoir, bien sûr, notre musicien vient de donner son dernier concert à Moscou. Pas seulement de la saison, comme il le pense, mais de toute sa vie. Après ses concerts à Moscou, Rachmaninov reste encore quelques jours en ville. Il a l'habitude de partir pour la campagne à la fin du printemps, mais cette année, avec les événements, il est pressé de voir ce qui se passe à Ivanovka, la propriété qu'il gère depuis que son beau-père lui a confié ce soin voici quelques années. Ses filles, Irina et Tatiana, qui ont respectivement 13 ans et demi et 9 ans et demi, n'ont pas terminé leur année scolaire. Il va donc les laisser à Moscou avec sa femme Natalia et se rendre seul à Ivanovka. C'est à presque 600 km au sud-est de Moscou. Rachmaninov est terriblement attaché à ce pays. Il y a passé son premier été en 1890, invité alors par sa tante et son oncle, les parents de Natalia, qu'il a épousée en 1902.
Слушаю голос. чувства и густую прядь, из мыслей изгонять и снова призывать. Шептать и поправлять былые выражения речей моей с тобой, исполнены смущения. Мы в опьянении на перекорму, заветным именем будить ночную тьму.
Alors que ses parents étaient divorcés et qu'il avait dû quitter pour ses études sa ville d'enfance de Saint-Pétersbourg, le jeune Serge Rachmaninov avait redécouvert une famille chez les Satine, sa tante, son oncle et ses cousines, l'hiver à Moscou et l'été à Ivanovka. La propriété dans laquelle il se rend pour la première fois en 1890 est très vaste. Deux maisons dans un parc à l'anglaise, une ferme, des étables, des écuries, des granges, des vergers et tout autour une plaine infinie de champs entrecoupé de petits cours d'eau. 40 ans plus tard, notre compositeur a décrit les lieux. Il n'y avait aucune des beautés habituelles de la nature, montagnes, ravins, rivages. Mais la steppe elle-même était une mer sans fin. Des champs de céréales s'étiraient d'un point de l'horizon à l'autre. On loue souvent l'air de la mer, mais vous ne pouvez imaginer combien l'air des steppes est bien meilleur avec son parfum de terre et de végétation. Lorsque jeune homme, il est à Ivanovka l'été, Rachmaninov voit beaucoup de monde. Il retrouve des cousines de plusieurs familles proches et il est amoureux de plusieurs d'entre elles. Beaucoup d'amis passent aussi par la propriété. Serge compose ses premières œuvres, on fait de la musique, on chante ses premières mélodies. Il en a dédié aux trois jeunes filles dont il a été amoureux, sa cousine Vera, la belle gitane Anna et sa cousine Natalia, qu'il a épousée. Rachmaninov écrira plus tard « Je revenais toujours à Ivanovka pour le calme et la paix, ou pour des raisons complètement opposées, c'est-à-dire pour travailler dur, encouragé par la tranquillité environnante. » Alors que son cousin, le pianiste Alexandre Silotti, en vacances lui aussi à Ivanovka, travaille le concerto de Grieg dans la maison, Rachmaninov, de son côté, à 17 ans, compose son premier concerto pour piano, son opus 1. Quand il se concentrait sur une idée musicale, raconte sa cousine Lyudmila, il avait l'habitude de parcourir son allée favorite, pavée de briques rouges, et nous pouvions le voir de loin, une grande silhouette en chemise russe, marchant la tête baissée, tambourinant sur sa poitrine et fredonnant. Au fil des années, le jeune musicien a pris l'habitude de composer l'été à Ivanovka, où il trouve la paix nécessaire à son inspiration. En 1910, alors qu'il a 37 ans et que sa réputation est faite en Russie, où on le considère comme une figure majeure de la musique, comme compositeur, pianiste et chef d'orchestre, le seul qui peut égaler Nikish, Kolon ou Mahler, son beau-père lui cède la propriété d'Ivanovka. Désormais, Rachmaninov va gérer le domaine avec Vladimir, son beau-frère. De là, raconte-t-il, je pris un intérêt passionné à son aménagement. Je travaillais très dur pendant l'hiver, donnant des récitals, gagnant de l'argent, et en été, j'investissais la plupart de mes revenus dans la terre, dans le bétail, les machines, la plupart de fabrication américaine. Lettre de Rachmaninov à Zoya Pribitkoya, une petite cousine, 1911. Il a 38 ans. Vraiment, je n'ai jamais eu un été aussi difficile et fatigant. C'est plus que de la fatigue, le grand âge peut-être. J'oublie les choses, sans aucune excuse. Et chaque soir, quand je me couche, je suis horrifiée quand je me souviens de tout ce que j'ai oublié de faire dans la journée. En effet, à présent que Rachmaninov gère le domaine d'Ivanovka, il se retrouve avec des responsabilités très chronophages, ce qui laisse peu de place pour la composition. Et néanmoins, il trouve toujours un peu de temps. Pour améliorer le rendement de son domaine d'Ivanovka, Rachmaninov a commandé un tracteur américain. Les États-Unis sont pour le moment le seul pays qui en produise et il est à l'affût des dernières nouveautés en ce domaine. En attendant, pendant l'été 1912, il a reçu la voiture qu'il convoitait depuis des années. En 1909 déjà, il écrivait à un ami « Je ne peux te dire à quel point j'en désire une. C'est tout ce qui me manque, une automobile et une secrétaire ». Il reçoit donc à Ivanovka une Mercedes avec laquelle il va dorénavant faire de longues promenades dans la steppe. « Quand j'en ai assez du travail, écrit-il, je monte en voiture et je roule jusqu'à 50 km d'ici, en plein air, sur la grande route. Je respire et je bénis la liberté et le ciel bleu. Après un tel bol d'air, je me sens plus intrépide et plus fort. » Rachmaninov ne laisse pas le chauffeur conduire, il reste au volant des heures durant. Dans ses souvenirs, il affirme « Un bon chef d'orchestre doit être un bon conducteur. Les qualités qui font l'un font également l'autre. C'est la concentration, un contrôle constant de l'attention et la présence d'esprit. Le chef d'orchestre doit seulement y ajouter un peu de sens musical. » Lorsqu'il arrive à Ivanovka en avril 1917, Rachmaninov peut constater que tout a changé. Les paysans se sont organisés et ils réclament à présent de posséder la terre, eux aussi. Au début du mois, dans la Pravda, Lénine a fait paraître ce qu'on a appelé les thèses d'avril, un texte dans lequel il développe ses idées sur la suite à apporter à la révolution de février. Il prône notamment la confiscation de toutes les terres des grands propriétaires fonciers. Les plus anciens parmi les paysans d'Ivanovka conseillent à Rachmaninov de se mettre à l'abri. Un de ses chiens préférés est abattu. Les impressions que j'ai ressenties, se souviendra-t-il, de mes contacts avec les paysans qui se sentaient maîtres de la situation, étaient désagréables. J'aurais préféré quitter la Russie avec des souvenirs plus amicaux. Étude tableau, opus 39, numéro 1, en ut mineur de Rachmaninov par Nicolas Angelitch. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont à présent sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Bruno Mourlan pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.